Aujourd'hui, nous recevons le professeur Philippe Masson. Le professeur Philippe Masson est docteur en sciences. Il est investigateur principal des programmes de géologie planétaire de la NASA et participe à plusieurs projets spatiaux européens et japonais. Son statut actuel, il est professeur de géologie planétaire et de planétologie à l'Université de Paris-Sud-Orsay. Il dirige l'équipe de planétologie de l'unité mixte de recherche du CNRS et préside le département des sciences de la Terre du Centre scientifique d'Orsay. Ses spécialités, études géologiques de la Lune et des planètes Mars et Vénus. Il est membre du Comité européen de sciences spatiales. Ses prix, 93 prix Louis Barabé de la Société géologique de France, 92 distinction de l'Institut américain de l'aéronautique et d'astrophysique. Publication, donc le professeur Philippe Masson participe à de très nombreuses publications scientifiques dans son domaine. Professeur Philippe Masson, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup pour cette introduction. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et comme on vient de vous l'annoncer, je vais vous entraîner dans un petit périple à travers le système solaire. Il y a à peu près 43 ans, le 5 octobre 1957, à 22h58, avec c'est précis, l'URSS lançait le premier satellite artificiel de l'humanité, Sputnik 1. C'était la première fois qu'on se hasardait dans l'espace, et à la suite de ce lancement, les choses allaient se développer très rapidement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous retracer toute cette épopée, ça serait fastidieux, ça serait un catalogue, et je voudrais simplement tirer quelques enseignements de cette exploration et puis donner quelques points de repère de cette exploration. Mais avant d'en venir là, pourquoi explorer le système solaire ? Le système solaire, c'est évidemment le milieu dans lequel nous baignons, c'est notre environnement à une échelle qui n'est pas forcément humaine, mais c'est un milieu dans lequel nous voulons comprendre comment il s'est formé, quelle est son histoire, quelle est son origine, et je crois à ce sujet que mon collègue et néanmoins ami, le professeur André Braic, a eu l'occasion de vous entretenir hier de l'origine de ce système solaire et de son mode de formation. Mais pour comprendre comment tout cela s'est passé il y a quelques milliards d'années, eh bien, il faut explorer le système. Alors, les grands objectifs, eh bien, vous les avez sur cet écran, et ce sont ces objectifs que les scientifiques se sont assignés. Et il y a parmi tous ces objectifs, en dehors la satisfaction de notre curiosité bien légitime, il y a un point tout particulier qui est celui de comprendre comment la Terre a évolué, comment elle a survécu au cours des milliards d'années et quelles sont les différences qui se sont manifestées sur notre planète par rapport au reste des autres planètes. Puis il y a une autre grande question que nous nous posons tous, qui est presque une question philosophique ou existentialiste. Que faisons-nous dans ce système solaire? D'où venons-nous? Comment la vie est-elle apparue dans le système solaire? Quels sont les processus qui sont à l'origine de cette étincelle, de cette transformation chimique, biochimique, qui a donné l'apparition de cellules ou de processus d'où nous sommes issus? C'est la science que l'on appelle l'exobiologie, qui est née avec l'exploration du système solaire par les sondes automatiques ou habitées. Alors, avant d'en venir à quelques-unes de ces étapes quelques-unes de ces dates qui ont marqué l'exploration, juste un mot sur la stratégie. Est-ce qu'on ne part pas dans le système solaire à l'aventure? On ne part pas sans avoir mûrement réfléchi à la façon de s'y prendre. La stratégie, on peut la résumer en trois étapes, en trois points. L'exploration du système solaire, telle qu'elle a été menée jusqu'à présent, s'est déroulée d'abord et passée d'abord par une phase que j'appellerais une phase de reconnaissance. Bien sûr, avant d'envoyer des sondes spatiales, nous connaissions les planètes, nous connaissions leur place dans le système solaire, nous connaissions leurs mécanismes, mais nous n'avions que des observations basées sur les télescopes terrestres. Il a donc fallu s'approcher de ces planètes pour en savoir davantage sur leur surface, sur leur environnement, et puis savoir tout simplement si vraiment ça valait la peine d'aller les voir de plus près. Donc il y a eu une première étape, une première phase, qui a été la reconnaissance, c'est-à-dire que l'on a envoyé de nombreuses sondes qui ont survolé à distance une ou plusieurs planètes. Et puis il y a eu une deuxième phase dans cette exploration, celle que j'appelle l'observation. Cette observation, elle repose sur la mise en orbite autour d'une planète donnée d'une ou plusieurs sondes spatiales. C'est ce que nous avons fait au début autour de la Terre et ce que nous continuons à faire autour de la Terre, et c'est ce que l'on a fait autour de la Lune, autour de la planète Mars, autour de la planète Vénus, également autour de la planète Jupiter. À l'aide des données scientifiques qui ont été recueillies au cours de cette phase d'observation, on a pu établir une troisième étape, une stratégie plus raffinée, si vous voulez, pour poursuivre l'exploration, cette fois-ci in situ, c'est-à-dire aller sur place. Pour aller sur place, il n'y avait pas d'autre solution que de se poser. Alors ça n'a pas été sans mal, il y a eu beaucoup d'échecs. Je dirais que le taux de casse était de l'ordre de 50%, ce qui est beaucoup, mais c'est normal dans une telle aventure. Et puis, se poser sur une planète, c'est bien, mais il faut aussi en retirer des enseignements. Donc ces sondes spatiales qui se sont posées sur la Lune, ou sur Mars, ou sur Vénus, elles ont non seulement observer ce qu'il y avait autour d'elles, mais elles ont également, dans certains cas, rapporté des échantillons qui ont été ensuite étudiés dans les laboratoires terrestres. Dans cette phase d'exploration in situ, l'homme trouve sa place, car même si on fait des prodiges avec l'informatique et la robotique, il a encore une utilité. Et la dernière étape dans cette stratégie, c'est l'envoi de vols habités sur certains objets. On ne peut pas aller partout, on ne peut pas envoyer des gens dans certaines conditions un peu scabreuses. Et pour l'instant, seule la Lune a été l'objet des vols habités. Comme vous le savez, ce fut l'épopée des missions Apollo. Voilà la stratégie qui a été suivie. Et pour fixer les idées sur l'histoire de cette exploration du système solaire, voilà quelques dates. Quelques dates qui correspondent aux premiers survols, aux premières opérations. Donc, comme je le disais en introduction, premier lancement d'un satellite artificiel terrestre, et c'était vraiment quelque chose de rudimentaire, 1957, Sputnik 1. Sur leur lancée, les Soviétiques, en 1959, ont réussi le premier survol de la Lune avec une sonde Lunik 1. Ils grillaient ainsi la politesse à leurs collègues américains, et vous savez qu'à cette époque, la course à la Lune n'était pas forcément basée sur des motivations purement scientifiques, bien au contraire, il y avait là une rivalité politique qui prenait le pas sur le reste. En 1962, les Américains lancent une sonde qui s'appelle Mariner 2 et qui survole pour la première fois la planète Vénus. 1965, c'est le tour de la planète Mars avec la sonde Mariner 4. Et puis, bien sûr, j'ai pas listé ici toutes les étapes qui ont suivi pour chacune de ces planètes, on reviendra dessus tout à l'heure. En 1972 seulement, les planètes externes, Jupiter et Saturne, ont l'honneur d'être survolées par deux sondes jumelles américaines, Pioneer 10 et Pioneer 11. Et ce n'est qu'en 1974 que la petite planète Mercure, la plus proche du Soleil, a eu le droit, elle aussi, à un survol. Ça a même été le seul jusqu'à présent, pour différentes raisons. Voilà les premières dates, nous sommes en l'an 2000. Vous voyez que ce n'est pas si lointain, mais qu'en quelques décennies, eh bien, nous avons presque exploré tout le système solaire. Alors aujourd'hui, je ne vous parlerai bien sûr que de ce qui concerne les planètes, et je laisse le soin à mon collègue, M. Jean-Pierre Bibring, qui est professeur dans la même université que moi, qui de vous parler demain de ce qui occupe une partie de l'espace en dehors des planètes, c'est-à-dire les comètes et les météorites. Avant d'en venir aux planètes, je vais consacrer quelques instants à la Lune. Alors la Lune, ce n'est pas une planète. C'est vrai que d'un point de vue astronomique, c'est notre satellite naturel. Mais si je vais quand même vous en parler, c'est parce que la Lune, d'abord, c'est notre plus proche voisine. 384 400 km, c'est la banlieue. C'est celle qui a donc été la plus facile à atteindre par les sondes spatiales. Et c'est pourquoi aussi, c'est la première sur laquelle l'homme a mis le pied. La Lune, aujourd'hui, nous sert un peu de référence. Nous n'avons pas encore ramené d'échantillons d'autres planètes et nous y avons encore moins envoyé d'astronautes. Par conséquent, on se base sur ce que l'on a appris sur la Lune, bien sûr, l'expérience terrestre joue son rôle, pour mieux comprendre ce que l'on découvre sur les autres planètes, tout au moins sur celles qui sont les plus proches de nous, c'est-à-dire Mercure, Vénus ou la planète Mars. Peut-être envoyer première diapo. Voilà. Bon, vous connaissez tous notre système solaire. Voici un tableau de famille. Elles ne sont absolument pas dans cette position, vous vous en doutez bien, autrement ça serait trop facile. Elles ont été, pour les besoins de la cause, mises côte à côte. Vous apercevez bien sûr notre planète, la Terre, avec la Lune qui se trouve ici, Vénus qui, comme vous savez, a à peu près les dimensions de la Terre, ce qui nous a coutume de dire que c'est la planète sœur de la Terre, derrière Mercure, et puis ici la planète Mars, puis au premier plan, eh bien, les planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, il manque Pluton qui est beaucoup plus loin. Tout ce photomontage est basé sur les images qui ont été recueillies par différentes sondes spatiales. Alors, revenons à la Lune, si vous le voulez bien. Cette Lune que vous avez l'occasion de contempler par temps clair, et comme vous le savez, du fait de ces mouvements relatifs par rapport à la Terre, eh bien, on ne voit toujours qu'un seul côté. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la Lune a été l'objet d'une âpre compétition entre URSS et États-Unis. Et le résultat de cette compétition, c'est le fait, c'est matérialisé par l'envoi de 24 missions de la part de l'URSS entre 1959 et 1976. Alors en 1959, grâce à une sonde qui s'appelait Luna 3, on a découvert pour la première fois les aspects de la face cachée de la Lune, puisqu'on n'avait pas eu la possibilité de la voir autrement. Et en 1966, les Russes ont réussi à se poser. C'était la mission Luna 9, c'était un atterrissage en douceur, ce n'était pas évident. Et beaucoup plus tard, en 1970, au moment où les Américains posaient le pied sur la Lune, où ils envoyaient différentes missions Apollo, les Russes, de leur côté, envoyaient un véhicule télécommandé, un petit char, un peu rustique. Quand on voit l'engin aujourd'hui, on se demande comment on pouvait envoyer une telle masse sur la Lune. Il s'appelait Lunarod, et il était piloté depuis la Terre, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, avec des caméras de télévision, voyaient le paysage et le faisaient évoluer. Ça devait être un jeu très, très amusant. Et grâce à ce petit char, eh bien, les missions qui ont eu lieu en 70, en 72 et en 76, avec des engins analogues ou similaires, eh bien, nous ont prélevé des échantillons de la surface lunaire et les ont rapportés sur la Terre. On parle toujours des échantillons que les missions américaines ont rapportés, mais il ne faut pas oublier que, de leur côté, les Russes ont contribué à nous ramener ces échantillons. Alors, les Américains, comme vous le savez, piquaient au vif dans cette compétition, eh bien, ont voulu rattraper leur retard. Pendant la période 58-68, il y a eu un certain nombre de vols de sondes automatiques qui avaient pour but de préparer l'envoi de vols habités. Alors, ça a été les missions Pioneer, Ranger, Lunar Orbiter, Surveyor, avec pas mal d'échecs, pas mal de pépins. Et puis enfin, en 68, et de 68 à 72, ce fut le fameux programme Apollo, avec l'envoi de 12 astronautes, pas tous en même temps, bien sûr, 6 missions en direction de la Lune, avec chacune 3 astronautes à bord et 2 allant sur la Lune, à l'exception d'Apollo 13, qui malheureusement a eu des problèmes. Et vous vous souvenez sans doute de la mission Apollo 11, avec le premier pas de l'homme sur la Lune, le 21 juillet 1969, qui a tenu le monde entier en haleine. Alors ces missions, eh bien, elles ont permis de faire de la science, et elles nous ont permis aussi de récupérer pas mal de cailloux. On a ainsi rapporté 380 kilos de cailloux sur Terre pour analyse dans différents laboratoires. Alors après la période 72, la Lune est passée au second plan, si j'ose dire, et les agences spatiales russes et américaines se sont tournées vers d'autres objets, en particulier Vénus et la planète Mars. Et on a eu l'impression qu'à ce moment-là, plus personne ne s'intéressait à la Lune, ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque en 1993, la NASA et le département de la défense américain ont lancé une petite sonde, c'était une mission de démonstration technologique, qui s'est mise en orbite autour de la planète Mars, ça s'appelait Clémentine, et cette mission eh bien, a complété fort utilement la connaissance lunaire. Et beaucoup plus récemment, 1998, une autre sonde américaine dont on n'a pas beaucoup parlé, qui s'appelait Lunar Prospector, a étudié la surface de la Lune. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en a pas beaucoup parlé? Je crois surtout c'est parce qu'il n'y avait pas d'image. Et quand on n'a pas d'image à montrer, eh bien, c'est beaucoup moins spectaculaire. Alors, qu'est-ce que ça nous a appris tout ça? Eh bien, la Lune, grâce aux échantillons qui ont été rapportés, eh bien, on sait qu'elle a une histoire qui est à peu près contemporaine de l'histoire terrestre. Par exemple, on sait maintenant qu'elle s'est formée en même temps que la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années. Mais ce que l'on ne sait toujours pas, c'est comment. Il y a eu plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, celle qui prévaut, c'est une collision entre la Terre au moment où elle se formait, il y a à peu près à la même époque, 4 milliards et demi d'années, avec un autre objet de la taille de la planète Mars, et ce serait les débris résultant de la collision de ces deux corps, qui se seraient recollés, réaccrétés, comme on dit, pour donner naissance à la Lune. Ça, c'est l'hypothèse, c'est la théorie du jour. Maintenant, dans quelques temps, elle aura peut-être plus court. La deuxième chose que l'on sait, eh bien, c'est que la Lune a été soumise à un bombardement absolument catastrophique après sa formation, et cela dans jusqu'à environ 3,8 milliards d'années avant nos jours. Ça a dû être apocalyptique dans tout le système solaire, des débris, des météorites, des comètes, tout ce que vous voudrez, dont vous parlera Jean-Pierre Bibring demain, eh bien tout ça, ça battait joyeusement sur la Lune, comme sur les autres planètes, y compris la Terre. Et puis, lorsque ce mauvais temps s'est calmé, eh bien, la Lune a connu une période pendant laquelle le volcanisme s'en est donné à cœur joie, et pendant environ 600 millions d'années, l'intérieur de la Lune a émis des laves qui sont parvenues à la surface, qui ont recouvert une partie de cette surface, et c'est ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les mers lunaires, dont on verra tout à l'heure un exemple. Ce qu'on a aussi appris, c'est qu'aujourd'hui, l'intérieur de la Lune est un intérieur qui n'est plus actif, il n'y a pas de champ magnétique, ça veut dire que la Lune est un astre mort, c'est un astre sur lequel il ne se passe plus grand-chose, à l'exception de la visite de quelques astronautes ou de la chute de quelques météorites. Et enfin, pour faire court, eh bien, ce que l'on sait, c'est que la Lune est constituée par des roches qui ressemblent beaucoup à certaines des roches terrestres, des roches qui contiennent des silicates, mais qui ont des petites variations de teneur en aluminium ou en fer. Et ce sont ces variations dans ces teneurs qui laissent à penser que, justement, la Lune n'est pas entièrement issue de la Terre, mais peut être le résultat de cette collision dont je vous parlais il y a un instant. Voilà la face visible, celle que vous pouvez contempler le soir. Les taches sombres que vous voyez ici, eh bien, ce sont ces fameuses mers lunaires, ce remplissage par des roches volcaniques, par des basaltes. Et les chiffres que vous voyez ici, eh bien, ce sont les endroits où les missions Apollo se sont posées, Apollo 11, la première, et Apollo 17, ici. Alors, pourquoi toutes ces missions sur la face visible? Pour des raisons bien évidentes de sécurité et de facilité. On ne pouvait pas prendre le risque d'envoyer des astronautes sur la face cachée, parce qu'on n'aurait pas pu communiquer avec eux. Et puis, d'un point de vue balistique, ce n'était pas absolument évident d'atterrir dans une zone que l'on connaissait beaucoup plus mal. On a choisi d'atterrir près des mers parce que, eh bien, tout simplement, ce sont des zones relativement plates. Voilà une image oblique de la surface lunaire qui a été obtenue au moment de la dernière mission d'Apollo 17. Et Apollo 17 s'est posé là où il y a la flèche. Vous avez à gauche, eh bien, une mer lunaire, c'est-à-dire cette zone plate couverte par des basaltes. Au contraire, à droite, vous voyez ce qu'on appelle les terres ou les continents lunaires. C'est une surface qui est bourrée de cratères de météorites et qui est donc beaucoup plus dangereuse pour un atterrissage. Alors, vous savez que les astronautes sont des gens qui aiment leur confort, même si sur la Lune, c'est un peu spartiate. Alors, les premières missions Apollo, les premiers vols Apollo, les astronautes n'ont pas pu se déplacer ou s'éloigner beaucoup du site d'atterrissage. D'abord parce que, comme ils ne connaissaient pas très bien cet environnement, ils ne prenaient pas de risques. Puis, deuxièmement, parce que, il n'était pas prévu qu'ils restent trop longtemps. Et puis, les missions passant, ils se sont enhardis. Et pour les trois dernières missions, eh bien, ils avaient le droit d'avoir leur véhicule, une Jeep, pour se déplacer à la surface de la Lune. Et grâce à cette Jeep, que vous voyez ici, alors c'est évidemment un engin un peu particulier, ça ressemble plutôt à un buggy, et je peux vous dire que la dernière mission Apollo 17, ils s'en sont donnés à cœur joie, en faisant même des excès de vitesse qui ne se seraient pas permis sur les highways aux États-Unis. Et grâce à ça, ils ont parcouru par beaucoup de kilomètres. Ils ont pu faire une trentaine de kilomètres, je ne sais pas si vous réalisez, mais 30 km sur la Lune en voiture, c'est par des stations-service partout, c'est des moteurs électriques, des pneus qui ne sont pas des pneus, mais des roues creuses. Et grâce à ça, eh bien, les astronautes ont pu faire progresser un petit peu les choses. Voilà d'ailleurs, j'allais oublier, la carte Michelin de la mission Apollo 17. Bon, Apollo 17 s'était posé ici, et à l'occasion de plusieurs sorties, ils n'ont pas fait ça en une seule journée, parce que, bon, il fallait qu'ils se reposent, avec des haltes pour ramasser les échantillons et prendre des photos, eh bien voilà le trajet qui a été entrepris par cette Jeep, que vous pouvez voir d'ailleurs dans certains musées aux États-Unis. Alors, bon, il y avait le côté touristique, bien sûr, mais il y a surtout le côté scientifique. Alors, qu'est-ce que l'on a fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien là, vous reconnaissez mon collègue Jack Schmidt, qui est, je dis collègue parce que c'est un géologue, et qui est en train de prélever un échantillon sur ce gros bloc. Avec, bon, on ne le voit pas, mais il a un marteau de géologue, et il tape consciencieusement sur le caillou pour ramasser quelques morceaux, quelques débris qu'il va ensuite rapporter sur Terre. Bon, il n'y a pas eu que des prélèvements d'échantillons, il y a eu des forages, et puis il y a eu aussi des appareils que l'on a laissés sur place bien après le départ des astronautes, et en particulier des sismographes. Ces sismographes ont fonctionné pendant une dizaine d'années, et ils ont pu enregistrer ce qui se passait à l'intérieur de la Lune. Alors, tout à l'heure, je disais que la Lune est un astre mort, ce n'est pas tout à fait exact. Elle a quelques soubresauts, des mouvements à l'intérieur qui se traduisent en surface par des petits tremblements de Lune. Et ce sont en fait les conséquences des effets de marée induits sur la Lune par la masse terrestre. Il y a un autre appareil qui, lui, est toujours là. C'est un réflecteur laser. Et ce réflecteur laser, eh bien, régulièrement, depuis un observatoire situé en France, à Grasse, le CERGA, eh bien, on tire sur ce réflecteur avec un canon laser pour mesurer la distance Terre-Lune. On dirait que c'est un exercice qui ne doit pas être très rigolo. Eh bien, c'est important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des petites variations dans la distance Terre-Lune. Et ces petites variations sont dues au mouvement respectif des deux corps, et ça peut avoir des effets sur, disons, un certain nombre de processus. Alors, la petite mission Clémentine dont je parlais tout à l'heure, eh bien, nous a aussi permis de progresser. Et aujourd'hui, eh bien, voilà comment on pourrait représenter la topographie de la Lune, grâce aux mesures qui ont été effectuées par cette sonde. En bleu, ce sont les altitudes les plus basses, et en jaune et en rouge, les altitudes les plus élevées. Eh bien, on a une bonne correspondance entre les régions où il y a des mers avec des coulées volcaniques, et puis qui sont, disons, en contrebas, et au contraire, des régions que l'on appelle les terres, qui, elles, se trouvent surélevé. La différence d'altitude sur la Lune est impressionnante puisqu'on arrive à quelque chose comme 11 km. Alors, sur Terre, on a un peu plus de 20 km. Il faut simplement rapporter ces deux chiffres aux tailles respectives de chacun de ces objets. Et dans le cas de la Lune, eh bien, c'est une énorme différence par rapport à sa masse. Alors, aujourd'hui, on pourrait penser qu'on a tout appris sur la Lune, on sait tout sur la Lune. Eh bien non, pas du tout. On a posé des questions et il faut retourner. Il y a un certain nombre de projets. Pourquoi retourner sur la Lune ? Eh bien tout d'abord parce qu'il y a de la science à faire sur place pour comprendre la Lune, mais aussi comprendre comment elle interagit avec la Terre. Puis il y a aussi des projets pour faire de la science à partir de la Lune. La Lune pourrait être un excellent observatoire naturel pour les astrophysiciens, beaucoup plus stable que n'importe quel observatoire que l'on peut mettre en orbite terrestre, comme le Hubble, et surtout un observatoire dont la durée de vie est en principe illimitée. Et puis, troisième objectif, des sciences sur la Lune. La Lune pourrait être, ou pourra être, un terrain expérimental pour tester de nouvelles technologies dans la perspective de l'exploration du système solaire avec des vols automatiques ou des vols habités. Et là, on a quelques idées derrière la tête. Pourquoi ne pas utiliser la Lune pour explorer la planète Mars ou se préparer à explorer? Alors, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, dans l'immédiat, l'Europe, avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA, se prépare à envoyer une sonde technologique qui s'appelle Smart One en 2002, qui sera une sonde de démonstration du savoir-faire européen et qui aura pour objet donc de se mettre en orbite autour de la Lune et peut-être d'y déposer un engin mobile. De son côté, le Japon, avec son agence spatiale LISAS, a prévu d'envoyer une sonde en 2003 qui déposera également des sismographes sur la Lune. Et le Japon, toujours lui, avec ses deux agences, cette fois-ci l'ISAS et la NASDA, envisage en 2005 de rééditer l'exploit avec une autre sonde qui s'appellerait Séléné. Vous voyez que la Lune n'est pas complètement laissée de côté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'exploration lunaire a été un formidable moteur pour le reste de l'exploration du système solaire. Et si on a pu ensuite, ou si les agences américaines et soviétiques ont pu continuer à explorer le système solaire, c'est parce qu'elles ont bénéficié de l'impulsion donnée par les programmes lunaires tels que le programme Apollo pour ce qui concerne les Américains. Alors, quittons la Lune et allons voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Vénus, qui est donc la planète sœur de la Terre, l'URSS s'y est beaucoup intéressée. Elle lui a consacré 18 vols entre les années 61 et 84, dont 8 atterrissages. Les sondes s'appelaient Venera, Vega, peu importe leur nom. 8 atterrissages sur Vénus, ça peut paraître trivial après ce que je viens de vous raconter. En fait, pas du tout. Vous savez que la planète Vénus a une atmosphère tout à fait hostile, une atmosphère qui est franchement désagréable et qui est totalement opaque. On ne voit absolument pas la surface de Vénus et par conséquent, se poser, c'est se poser un peu à l'aveuglette avec les risques que ça comporte. Et par ailleurs, il règne une température infernale sur Vénus, 450 degrés, une pression qui est d'équivalent de 90 fois la pression atmosphérique terrestre, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de matériel qui résiste. Eh bien, les Russes ont parfaitement réussi leurs atterrissages. Et ils ont surtout réussi à faire fonctionner des sondes pendant plusieurs dizaines de minutes. Le record de longévité sur la planète d'une des sondes soviétiques était de 50 minutes, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les Américains, bien sûr, n'ont pas été en reste, mais n'ont fait que 5 missions entre les années 62 et 90. Et c'est surtout la dernière de ces missions, qui s'appelait Magellan, qui a permis d'avoir une vue de l'état de la surface de cette planète, parce qu'à cause des nuages, eh bien, on n'arrivait pas du tout à savoir à quoi ça ressemblait. Alors, sur les diapos suivantes, voilà cette planète Vénus. C'est une vue lointaine sur laquelle vous constatez que l'atmosphère et les nuages cachent complètement la surface. Eh bien, grâce au radar qui était à bord des sondes américaines et des sondes russes, eh bien, on a pu cartographier cette surface. Alors ça, c'est une carte extrêmement simplifiée. Et ce qui est représenté en bleu, eh bien, ce sont des plaines qui recouvrent à peu près 75% de la surface de la planète, qui sont couvertes par des formations volcaniques. Vous allez me dire, encore des volcans? Eh bien oui, dans le système solaire, les volcans, on en trouve partout. Mais cette fois-ci, il y a 75% de la surface de Vénus qui sont couverts par des volcans. Et ce qui reste, ce qui est représenté en jaune ici, à l'équateur et dans la partie nord, eh bien, ce sont des régions surélevées, des hauts plateaux, qui ont quand même des tailles respectables, puisqu'ils ont des tailles que l'on pourrait comparer à l'Afrique ou à l'Australie sur Terre. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Je vous disais, les sondes soviétiques se sont posées et nous ont fait découvrir quelques aspects du paysage. Alors évidemment, à l'époque où ces sondes se sont posées, les techniques de l'imagerie spatiale n'étaient pas aussi spectaculaires ou aussi au point qu'elles le sont aujourd'hui. Donc voilà des images qui peuvent vous paraître un petit peu rustique. C'est une image de la sonde Venera 13, ça date des années donc 70. La même sonde a photographié le sol vénusien en noir et blanc et en couleur. Pour la première fois, on a pu voir à quoi ça ressemblait. Et on voit que ce sol, eh bien, il est jonché de dalles, qui sont probablement des dalles volcaniques, et il y a des débris qui sont des cailloutis qui résultent de du fractionnement de ces dalles sous l'effet de différents phénomènes, notamment la chaleur, mais aussi peut-être de la corrosion, parce que nous avons une atmosphère extrêmement corrosive. Alors cette surface vénusienne, quand on la regarde dans le détail, et voilà un tout petit morceau d'une plaine de la planète, et ici nous avons une échelle qui vous donne la longueur de 50 km. Sur cette photo, sur cette image radar, tous les points blancs que vous apercevez, ce sont des volcans. Des volcans, il y en a des centaines à la surface de cette planète, de toutes dimensions. Il n'y a pas que des petits volcans de quelques centaines de mètres de diamètre ou quelques kilomètres de diamètre. On va rencontrer des volcans géants. Et on a quelques volcans, comme celui-ci, que vous voyez cette fois-ci en trois dimensions. Ce volcan qui s'appelle Mount Mons, peu importe le nom. Ce volcan, la taille a été exagérée par le traitement informatique de l'image. Ce volcan a un diamètre à la base qui fait environ 600 km, j'ai bien dit 600 km, je ne me suis pas trompé d'unité, mais il ne fait que 3 km d'altitude. Ce qui frappe quand on voit une telle image, ce sont les coulées les plus récentes qui ont été émises par ce volcan et sur lesquelles eh bien, on voit de rares cratères de météorites. Cela veut dire que ces coulées ont été émises par les volcans de Vénus à une période relativement proche de notre époque. Et on estime aujourd'hui que ce volcanisme a pu s'achever il y a environ 600 millions d'années. Alors évidemment, 600 millions d'années par rapport à notre ère, c'est beaucoup, mais par rapport à l'histoire du système solaire, c'est très peu de choses. Alors, est-ce qu'il est question de retourner sur Vénus dans un avenir proche ou pas trop lointain? La réponse est non. Pour l'instant, Vénus n'est pas dans les priorités des agences spatiales, tout simplement parce que les images telles que celles que je viens de vous montrer, plus les autres données scientifiques recueillies par la mission américaine Magellan, sont loin d'avoir été digérées. La cartographie qui doit résulté de cette imagerie n'est loin d'être terminé. Donc avant d'entreprendre une autre phase dans l'exploration de cette planète, il faut d'abord avoir bien compris ou déjà bien assimilé ce que les sondes précédentes nous ont appris, les missions précédentes. Alors voyons un petit peu maintenant la planète Mars. C'est la fameuse planète rouge. Elle a fait couler beaucoup d'encre, surtout ces derniers temps. Et ça a été l'objet de tous les de tas de romans, ça a été l'objet de films d'anticipation. Et qu'en est-il en réalité? Là aussi, la planète Mars a suscité l'intérêt des deux agences russes et américaines, des agences spatiales russes et américaines. L'URSS a consacré pas moins de 11 sondes spatiales entre les années 62 et 96 à cette planète, alors et de leur côté, les Américains, 13 missions. Les Russes ont eu une malchance pas possible avec la planète rouge, alors qu'ils avaient presque tout réussi sur la Lune et sur Vénus. Dans le cas de la planète rouge, ça a été échec sur échec. Différentes missions ont raté la planète, sont passés trop loin. D'autres l'ont pas raté, mais alors quand on dit pas raté, c'est qu'elles sont écrasées de plein fouet dessus. D'autres devaient se poser, l'atterrissage a été raté, ça a été le crash. Et puis enfin, alors le comble de la malchance, ça a été l'une des dernières missions où la sonde d'atterrissage s'est bien posée, Et quelques secondes après avoir atterri, elle a cessé d'émettre, définitivement, pour une raison à laquelle, pour tout à fait stupide, le parachute de freinage qui l'avait amené à la surface est tombé sur les antennes. C'était quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé avant. Et depuis, ça a été une leçon. Je peux vous dire que maintenant, tous les ingénieurs spatiaux, quand on leur parle d'atterrir sur Mars, commencent par regarder quel type de pyrotechnie ils vont utiliser pour éjecter les parachutes le plus loin possible pour que ça ne se reproduise pas. Alors après, la dernière mission russe en 1996 était une mission sur laquelle les scientifiques du monde entier fondaient beaucoup d'espoir. C'était une période où du côté américain, les choses n'allaient pas très fort. Et la mission Mars 96, à laquelle nous, Français, nous étions étroitement associés, mais pas uniquement nous, c'est une mission quasi internationale, cette mission a complètement raté son lancement, c'est-à-dire qu'elle a été mise sur orbite, mais ensuite elle n'a pas pu se libérer de cette orbite terrestre, et elle a terminé piteusement quelque part au large de l'île de Pâques. Alors, ça a été la fin du programme spatial soviétique, tout au moins pour l'instant. Alors, du côté américain, au contraire, les choses ont été assez couronnées de succès, pas toutes. Il faut garder en mémoire trois grandes missions. La mission Viking, qui a eu lieu en 1976, avec deux orbiteurs et deux engins qui se sont posés en douceur pour la première fois à la surface de Mars, et qui y sont toujours. La mission Mars Pathfinder, qui a lieu en 1997 et dont vous vous souvenez certainement des images très spectaculaires que l'on a pu voir grâce à Internet et sur les chaînes de télévision, avec le fameux petit rover Sojourner qui a exploré un petit peu la surface de Mars. Et puis la mission Mars Global Surveyor, qui a lieu en ce moment. Elle a été lancée en même temps que Mars Pathfinder en 1997. Et cette mission se déroule actuellement. Alors, qu'est-ce qu'elles nous ont appris, ces missions? On va le voir en images. Bien, voilà une image qui était une image de très bonne qualité pour les observations terrestres. Et lorsqu'on s'est approché de la planète, eh bien, on a pu découvrir une planète à la surface beaucoup plus contrastée qu'on aurait pu le penser. Voilà la surface de Mars, telle qu'elle s'est apparue sous les caméras d'un des deux atterrisseurs de la mission Viking en 1996. Une surface avec de gros cailloux et puis de la poussière qui forme des petites dunes. Alors ce caillou il fait 3 mètres de long quand même. Mars Pathfinder, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, lui est arrivé dans des conditions un peu rocambolesques avec des airbags, ce qui nous a permis de rebondir et de se poser sans casse. Voilà l'engin, le petit robot, le petit rover qui a ensuite dévalé une rampe pour aller se coller sur des cailloux et en analyser les échantillons. Entre parenthèses, ce rover qui devait fonctionner 8 jours a fonctionné 3 mois. Et sans être particulièrement chauvin, il faut quand même savoir que s'il a pu survivre aussi longtemps, c'est parce qu'il avait à son bord des piles de fabrication française qui lui ont permis de réchauffer les instruments pendant les nuits où il fait quand même relativement froid sur Mars. Et aujourd'hui, eh bien, comme je vous le disais, la sonde Mars Global Surveyor tourne autour de la planète Mars après avoir été lancée en 1997 et avoir subi quelques vicissitudes liées à ses panneaux solaires. Alors, ce que nous savons de la planète aujourd'hui, eh bien voilà. Nous avons ici une carte topographique qui a été réalisée avec un laser et à bord de la sonde en question. Et vous voyez qu'il y a deux grandes régions. Ce qui est en bleu, ce sont des plaines qui sont dans la partie nord de la planète. Et en jaune, ce sont des régions un peu comparables au terrain lunaire, avec beaucoup de cratères. Mais le plus important, c'est ce qui est ici en rouge, c'est la présence de volcans géants. Il y a sur cette planète un contraste morphologique très fort avec des volcans comme celui que vous voyez ici, qu'on appelle Olympus Mons, qui est une véritable monstruosité, puisqu'il fait non seulement 600 km de diamètre à la base, mais il fait 27 km de haut. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le système solaire. Et des volcans comme celui-là, ben, il y en a 4 sur cette planète. Rien que 4 sur cette planète. Il y a aussi une autre curiosité. Le jour où vous irez faire du tourisme sur Mars, je vous la recommande. Eh bien, c'est cette vallée que vous apercevez ici, qui fait 5000 km de long et qu'on appelle Valles Marineris, qui est une énorme, un système de canyons. Bon, vous connaissez le Grand Canyon du Colorado dans le désert de l'Arizona. Eh bien, le canyon du Colorado à côté, c'est une plaisanterie. Voilà un bout de ce canyon. Et ici, vous avez un plateau et 6 km plus bas, vous avez le fond du canyon. Tout ceci a été creusé par des effets de ravinement. Vous avez ici un bout de ce plateau et là, les ravines qui résultent des effets d'un liquide qui a dû s'écouler sur cette planète. Voilà un autre effet de ce liquide et qui a provoqué des avalanches et des glissements de terrain le long de ce canyon. Alors ce liquide, bon, tout le monde en a entendu parler il n'y a pas longtemps, il a laissé des traces, c'est de l'eau. L'eau a existé sur la planète dans le passé, et dans un passé pas très lointain. Cette eau a coulé en grande quantité, elle a creusé, elle a raviné la surface, mais cette eau a disparu. Elle a disparu, on en retrouve aujourd'hui un petit peu dans les calottes polaires, vous en avez ici une représentation, ça c'est la calotte du pôle nord martien, qui est un sandwich entre de la glace H2O et de la glace dioxyde de carbone. Ça fait 3 km d'épaisseur, ce n'est pas énorme. Il y en a aussi un peu dans l'atmosphère martienne, mais très très faible quantité, 0,03% de vapeur d'eau, c'est tout à fait négligeable. Et tout le reste, ben, on ne sait pas où est. On pense qu'une partie de cette eau se trouverait aujourd'hui dans le sous-sol de la planète sous forme de glace, mais il n'est pas exclu qu'une partie se soit évaporée dans l'espace. S'il y a eu de l'eau sur la planète Mars, eh bien, ça veut dire que le climat dans le passé a été beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide qu'il ne l'est aujourd'hui, et surtout que la pression atmosphérique a été plus importante. Aujourd'hui, la pression atmosphérique martienne est de 6,1 millibars, ce qui est très, très, très faible et tout à fait insuffisant pour permettre à de la vapeur d'eau, à de l'eau d'exister telle qu'elle. Alors, on peut toujours rêver, et vous voyez que certains ne s'en sont pas privés, d'imaginer que dans le passé, il y a quelques milliards d'années, quelques millions d'années, eh bien, une partie de la planète, le nord de préférence, eh bien, était occupée par un océan, pas très profond, 600 mètres de profondeur environ, et cet océan était alimenté par de l'eau qui avait coulé dans le canyon, qui avait coulé aussi dans d'autres fleuves et qui venait se déverser dans cette région. Voilà, aujourd'hui, où on en est sur cette planète. Alors, s'il y a eu de l'eau, eh bien, évidemment, le réflexe, c'est de se dire que peut-être la vie est apparue sur cette planète, elle a peut-être laissé des traces. Aujourd'hui, on ne les a pas trouvées, ces traces. Mais un jour, peut-être, eh bien, des astronautes, comme cette personne que vous voyez ici, iront au fond du canyon, ramasser des échantillons et essayer d'y trouver des traces fossiles de cette vie. Alors, très rapidement, pour conclure, un mot sur le système solaire externe. Il ne faudrait pas croire que l'on est resté pendant sans s'intéresser aux planètes géantes, qui sont des planètes qui sont constituées par de l'hydrogène et de l'hélium, mais qui ont aussi des satellites fort intéressants, souvent des satellites de glace. Là, vous avez un montage qui rapproche Jupiter et Saturne avec la Terre à côté. Voilà Jupiter avec sa fameuse tache rouge. Mais si je vous parle de ces planètes, c'est parce qu'aujourd'hui, il s'y déroule des événements importants. Il y a une mission qui s'appelle la mission Galileo, qui est une mission de la NASA avec une participation allemande, qui a lâché une sonde qui est descendue dans l'atmosphère de cette planète pour en étudier la composition. Et pendant que je vous parle, eh bien, il y a des photos qui nous arrivent de cette mission. Là, vous avez ici un montage. Alors évidemment, ça, ce n'est pas la sonde qui nous a envoyé ça. Un montage de la fameuse tache rouge avec la Terre juste à côté à la même échelle pour vous donner un aperçu de l'énorme différence de taille qui existe entre nos deux planètes. Cette planète possède des satellites, comme vous le savez, et parmi ces satellites, eh bien, on a un qui défraie la chronique, c'est celui-ci, c'est le satellite Io, qui est un satellite que les Américains ont délicatement surnommé la pizza, on se demande pourquoi. et qui a des couleurs très vives. Pourquoi ces couleurs? Eh bien, tout simplement parce que la surface est couverte de coulées volcaniques riches en soufre. Ce sont ces coulées qui donnent ces teintes blanches, jaunes, etc. D'où viennent... Ah, là, nous avons un passage sur le dos. Ces coulées, eh bien, sont le résultat de l'activité volcanique contemporaine qui se manifeste sur ce satellite. Vous ne le voyez peut-être pas très bien parce que la diapo est un peu floue, mais vous avez ici une éruption volcanique. Le satellite Io est, après la Terre, le seul corps dans le système solaire où il se produit des éruptions volcaniques, éruptions qui peuvent projeter du matériel et des gaz jusqu'à environ 200 km d'altitude au-dessus de la surface de ce satellite. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ce volcanisme n'a rien à voir avec le volcanisme terrestre. C'est le résultat des effets d'attraction de la planète Jupiter sur le satellite et des énormes différences de masse qui existent entre les deux objets. Eh bien, l'exploration des planètes externes est une exploration compliquée parce qu'elles sont lointaines, parce qu'il faut donc un certain nombre d'années pour les atteindre. Et pour vous donner un petit aperçu avant de conclure, voilà un schéma des trajectoires des deux sondes américaines Voyager 1 et Voyager 2 qui ont visité respectivement Jupiter, puis Saturne, Uranus et Neptune. Eh bien, pour que vous réalisiez bien que ça ne se fait pas en un jour, les deux sondes ont été lancées en 1977. Elles sont arrivées en 1979 auprès de Jupiter. Elles n'ont atteint Saturne que dans les années 80 et même 81. Et ensuite, leurs trajectoires ont divergé, puisque la sonde Voyager 1 n'a pas été dirigée vers d'autres planètes et qu'elle continue son périple en sortant du système solaire actuellement, alors que Voyager 2 eh bien, a survolé les planètes Uranus et Neptune dans les années 80 et aujourd'hui, cette sonde est en train de s'éloigner. Voilà, donc... Grâce à ces sondes, aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux à quoi ressemblent ces planètes et leurs satellites. Quels sont aujourd'hui, maintenant, les projets pour poursuivre l'exploration de ces différentes planètes? En ce qui concerne la planète Mars, il y a tout un programme. Un programme qui démarre l'année prochaine. En fait, il a démarré il y a 2 ans, mais comme vous le savez, les sondes sur lesquelles on comptait ont échoué. C'était la sonde Mars Climate Orbiter et la sonde Mars Polar Lander qui ont échoué. Et donc, il y a plusieurs missions américaines qui sont programmées en 2001. Un orbiteur qui ira continuer la cartographie de la planète Mars. Et en 2003, probablement, une autre sonde, on ne sait pas encore s'il y aura un engin qui se posera. Mais de son côté, l'Europe n'est pas en reste, puisque l'Agence spatiale européenne enverra la sonde Mars Express, qui emportera un engin qui s'appelle Beagle 2, qui est construit actuellement en Angleterre, et qui aura pour objet de rechercher sans doute l'eau sur cette planète. Les Japonais, de leur côté, ont envoyé une sonde, Nozomi, qui s'appelle Espoir, c'est tout un programme, et elle étudiera l'atmosphère de la planète. Alors, au-delà de ces dates, eh bien, règne une incertitude, puisqu'il a été prévu qu'en 2005 et en 2007, la France s'associerait aux États-Unis pour participer à une ambitieuse mission de retour d'échantillons. Les échecs dont je parlais il y a un instant ont remis en cause ce programme, et pour l'instant, eh bien, on n'a pas des idées très précises sur les intentions de la NASA. Enfin, dernier point, du côté français et du côté européen, il y a un projet pour implanter un réseau de géophysique sur la surface de cette planète. Pour terminer ce tour d'horizon planétaire, il faut savoir que aujourd'hui les deux continents s'associent pour non seulement explorer la planète Mars, mais également la planète Saturne, et en particulier le satellite Titan de cette planète. Ce satellite Titan est le plus gros satellite que nous connaissions dans le système solaire. C'est un satellite qui est une énigme pour nous, puisque sa surface est complètement cachée par une masse nuageuse, par une atmosphère opaque. Et les spectres qui ont pu être réalisés ont donné des indications sur la composition de cette atmosphère qui pourrait contenir des radicaux carbonés, du méthane, de l'éthane, etc., qui pourraient être un bon indicateur sur la façon dont la vie ou la chimie prébiotique a pu prendre naissance dans le système solaire. C'est pourquoi l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, et la NASA ont entrepris une mission en direction de Saturne et Titan, qui est partie en 1997 et qui atteindra cette planète en 2004. La sonde principale américaine se mettra en orbite et elle larguera une sonde de petite taille construite en Europe, et plus exactement par l'aérospatiale en France, pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Et cette sonde descendra au bout d'un parachute dans l'atmosphère de ce satellite Titan. Vous voyez que l'Europe est maintenant au rendez-vous de l'exploration spatiale dans la décennie qui commence avec la mission Mars Express, la mission Cassini-Huygens, peut-être le retour d'échantillons. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Europe est au rendez-vous ? Eh bien parce que dans les années qui viennent de s'écouler, il y a eu quelques visionnaires, quelques scientifiques qui ont pensé qu'il fallait développer cette recherche et qui ont poussé les agences spatiales, les organismes tels que le Centre national d'études spatiales en France, le CNRS, qui ont développé des programmes qui font qu'aujourd'hui la communauté scientifique française est la deuxième au monde derrière la communauté américaine pour l'exploration du système solaire et elle occupe toute sa place dans ce contexte international. Je vous remercie.
Je voudrais vous poser une question, non pas sur votre conférence, mais sur les conférences précédentes. J'ai pas eu l'opportunité de poser la question à vos prédécesseurs. On nous a parlé de l'univers, on nous a dit qu'il était homogène, isotrope. On nous a dit qu'il avait un volume. On nous a dit que les quasars étaient aux confins de l'univers. Donc il n'est pas homogène, isotrope, puisqu'il est fini. Est-ce qu'il est fini, est-ce qu'il n'est pas fini, comment ça se présente?
D'abord, je dirais que c'est une vaste question et qu'on n'a pas fini d'y répondre. Actuellement, nous avons les astrophysiciens ont des indications de plus en plus, disons, précises sur ce qui se passe aux confins du système solaire et même au-delà, même aux confins de l'univers, si on peut appeler ça confins, parce qu'en fait c'est un univers qui ne semble pas avoir de limites. C'est le grand télescope de Hubble qui permet ces observations, mais pas uniquement le grand télescope de Hubble. Il y a des observations qui sont réalisées par des sondes européennes qui ont été lancées par Ariane ces derniers temps, et qui permettent d'avoir quelques idées un peu plus précises sur le système de forme, sur les modes de formation de certaines étoiles ou de certains amas d'étoiles et sur les processus qui en découlent sur le mode de vie et de destruction. Alors, de là à vous dire si on sait comment ça fonctionne exactement, je crois que c'est un peu prématuré. On est encore à formuler quelques hypothèses.
Au sujet du volcanisme, est-ce qu'on a appris quelque chose concernant pourquoi les volcans sont éteints sur certaines planètes et pourquoi ils sont en activité sur d'autres ?
Eh bien, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que, hormis le cas de Io, qui est un cas tout à fait particulier, la Terre est la seule planète du système solaire dans laquelle ou sur laquelle se manifeste un volcanisme. Alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Vénus, le volcanisme a cessé, semble-t-il, il y a 600 millions d'années avant nos jours, environ. Et sur Mars, il a dû cesser il y a environ entre 700 et 800 millions d'années avant nos jours. Alors pourquoi ? Eh bien, il faut rapprocher cela de la taille ou de la masse de ces objets. Mars est deux fois plus petite que la Terre. Vénus est un tout petit peu plus petite que la Terre. J'ai oublié de dire que le volcanisme sur la Lune également a cessé très tôt. Il a cessé il y a 3 milliards 200 millions d'années à peu près avant nos jours. Et la Lune est, comme vous le savez, encore beaucoup plus petite que ces planètes. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont plus actives aujourd'hui ? Il faut remonter à leur mode de formation. Lorsque ces objets se sont formés par le processus qu'on appelle l'accrétion, elles ont accumulé à peu près le même type de matière primitive, mais en quantité différente. Et dans cette matière primitive, ce sont des éléments radioactifs que l'on retrouve concentrés aujourd'hui au niveau du noyau, qui sont la source de chaleur, c'est-à-dire le moteur qui entraîne le volcanisme. Alors, lorsque cette source de chaleur est encore alimentée parce qu'on a assez de combustible, eh bien, c'est ce qui se passe sur Terre. On a du volcanisme, et il n'y a pas que du volcanisme. En fait, il y a tout le mécanisme, la tectonique des plaques, etc. Mais quand sur un objet plus petit, on a épuisé la masse de combustible plus vite, eh bien, il n'y a plus de source de chaleur et il n'y a plus de mécanisme et ça s'arrête. Ça a été le cas de la Lune très vite, très tôt. Ça a été le cas de Mars un peu plus tard. Et puis, Vénus, je dois dire que nous avons été très déçus parce qu'on espérait bien que l'on trouverait quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qui se passait sur Terre. Et là, eh bien, les choses semblent être arrêtées également.
Monsieur.
Oui, bonjour monsieur. Le programme martien, c'était avec Rocky, c'est ça moi, je pense à une chose, ça coûte quand même des fortunes assez énormes d'envoyer des machins là-haut. C'est très bien pour la science, mais est-ce qu'on pourrait pas, moi je pense, vous avez parlé des piles françaises qui ont fait un travail extraordinaire, on pourrait pas envoyer quelqu'un pour, enfin, un appareil pour les recharger ?
C'est une bonne idée. Le problème, c'est que pour l'instant, la durée du voyage, c'est quand même 9 mois d'aller simple. Alors, il faut quand même les... Bon, on ne va pas envoyer des kamikazes, je pense que ces gens-là voudront revenir, et on ne va pas les envoyer, comme ça a été le cas sur les premières missions lunaires, pour y passer 48 heures. Il faut quand même rentabiliser le voyage. Alors, l'idée d'envoyer des gens pour recharger les piles, ça me paraît une bonne idée. En fait, si on doit envoyer un jour des astronautes sur la Lune, ça sera sans doute pour, effectivement, faire des expériences scientifiques, mais aussi pour pouvoir faire du dépannage. On a vu que c'était utile d'avoir de l'homme dans l'espace avec le télescope de Hubble ou qui avait des difficultés. On a envoyé des astronautes, ils ont bricolé et ils remarchent. Donc, un jour, probablement, on sera amené à envoyer des gens. Mais là, ça coûte beaucoup plus cher que d'y envoyer un petit robot comme celui que je vous ai montré avec des piles à bord. Et puis bon, bah, si le voyage dure 9 mois, le petit robot il s'impatiente pas. Si vous y envoyez des gens, il va falloir trouver des loisirs. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on y songe, mais les techniques ne permettent pas de raccourcir le temps du voyage. Il y a quelques techniques qui sont en train d'être mises au point qui devraient raccourcir un petit peu, mais ce n'est pas encore tout à fait ça.
Oui, madame. S'il vous plaît, vous pouvez nous donner des précisions sur les dégazages signalés par les Russes il y a une dizaine d'années ou 20 ans, et plus récemment par Edouard Dollfus sur le cratère Langrenu.
Merci. Alors, je connais effectivement ce problème des dégazages qui a intrigué la presse et le grand public, car ça a même été assez loin. Certaines personnes ont effectivement pensé qu'on leur cachait la vérité. Je ne dis pas ça d'Edouard Dollfus, que je connais très bien et qui est quelqu'un qui est un scientifique de renommée mondiale et internationale et qui a au contraire décrit le phénomène avec beaucoup de pertinence. De quoi s'agit-il ? Eh bien, la Lune n'a pas d'atmosphère, ou tout au moins elle n'a plus d'atmosphère, si tant est qu'elle n'en ait jamais eu une dans le passé. Une atmosphère primitive sur une planète ou sur la Lune, c'est le résultat du dégazage de la croûte après que l'objet se soit formé lorsqu'il est en train de refroidir. Lorsque, à l'intérieur de l'objet, il se passe des choses qui donnent naissance aux roches qui vont constituer la croûte, qui vont constituer le manteau, qui vont constituer le noyau. Alors là, il y a un méli-mélo, hein, c'est un peu le chaudron de sorcière. Et ça dégaze. Ça dégaze et si la masse de l'objet est trop faible, eh bien, l'atmosphère se dissipe. On perd cette atmosphère. Aujourd'hui, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, mais on a vu quelques bouffées émises au bord de cratères qui étaient, semble-t-il, des résidus de ce dégazage, mais c'est très sporadique. Alors, pour la petite histoire, il y a quelques personnes qui ont écrit des ouvrages ou des articles incendiaires disant que les scientifiques et la NASA avaient caché la vérité, qu'il y avait de la vie sur la Lune, qu'il y avait des gens qui habitaient, puisqu'on avait vu qu'ils faisaient des feux de camp ou des barbecues.
Oui, madame. Bonjour, professeur. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur les vols habités, où on en est, quelles ont été les expériences, à quel niveau on en est, et ce qu'on a pu en tirer et pour pouvoir aller plus loin dans l'exploration?
Alors, pour ce qui est des vols habités, si vous parlez des vols habités pour l'exploration planétaire, les seuls qui aient été réalisés sont les vols habités sur la Lune, c'est-à-dire les missions Apollo dont j'ai parlé tout à l'heure dans mon exposé. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres tentatives pour les raisons que j'indiquais. Bon, c'est clair que quelles sont les planètes sur lesquelles on peut raisonnablement envisager d'envoyer un homme, enfin des hommes, la Lune. Ça a déjà été fait et ça sera probablement refait dans quelques années, quand, on ne sait pas exactement. Vénus, ça semble totalement exclu pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, avec 450 degrés à la surface et 90 pressions atmosphériques terrestres. On ne voit pas très bien qu'un astronaute puisse survivre dans de telles conditions. Mercure est trop près du Soleil et soumis à un bombardement du vent solaire et des rayonnements qui est particulièrement nocif. Il ne reste que la planète Mars. Et la planète Mars, comme je le disais tout à l'heure en répondant à monsieur, c'est encore loin et la durée du voyage est un peu trop longue. Alors, il y a quand même des vols habités, comme vous le savez, qui se sont faits longtemps à bord de la station Mir soviétique, bon, qui maintenant est en passe d'être abandonnée, et puis qui se font également à bord de la navette spatiale américaine, et cela aussi dans la perspective de l'établissement, de la construction de la Station spatiale internationale, qui est un énorme mécano qui est en train de s'assembler. Alors, à quoi ça sert tout ça? Bon, vous avez certainement vu dans la presse qu'il y a un débat qui fait rage chez les scientifiques, savoir si ça sert à quelque chose de faire voler des gens dans l'espace. Est-ce que ce qu'ils font comme cabriole ou comme expérience, eh bien, ça sert vraiment les intérêts de la science? Je crois que si on pense qu'avoir des hommes dans l'espace pour faire quelques expériences de physique, c'est absolument indispensable, je ne suis pas convaincu. Et on sait, par exemple, que dans la future station spatiale internationale, ça n'apportera pas grand-chose que d'avoir des astronautes. Au contraire, ça sera plutôt une nuisance, car on sait que si on veut recréer une apesanteur ou une micro-pesanteur pour faire, par exemple, croître des cristaux ou faire de la synthèse très fine, eh bien, il suffit qu'un astronaute éternue à un bout de la station pour perturber ce milieu. Autrement dit, l'expérience va échouer. Par contre, pour ce qui est de la médecine spatiale, de la biologie spatiale, je crois que c'est extrêmement important. Si on veut envisager un jour d'envoyer des gens vers la planète Mars, comme je le disais tout à l'heure, bon, condition que ça ne dure pas 18 mois, bien sûr, eh bien, il faudra qu'on en sache plus sur la façon dont le corps humain réagit en état d'apesanteur pendant des vols de longue durée. C'est dans ce but qu'un certain nombre d'expériences ont été menées. Les Russes sont devenus les champions du monde des vols de longue durée en apesanteur, plusieurs mois, ils ont même presque 6 mois, si mes souvenirs sont bons. Ça permet d'apprendre comment le corps réagit. On sait qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui apparaissent qu'il faut savoir contrôler. Par ailleurs, je crois que, moi je ne suis pas biologiste, mais je crois que mes collègues biologistes ont appris un certain nombre de choses importantes pour l'intérêt même de l'être humain sur Terre, la façon dont la pesanteur agit, ou la gravité terrestre, agit sur le développement du corps humain et sur certains phénomènes. En particulier, si vous vous souvenez des expériences qui ont été menées par Claudie André-Dehé sur les pleurodèles lors de son vol sur la station Mir, eh bien on a pu s'apercevoir que lors de la division de l'œuf après la fécondation, eh bien le fait que l'on soit en micro-pesanteur ou en apesanteur, eh bien ça perturbait cette division. Alors, c'est tout à fait fondamental quand on sait ensuite que ce sont ces divisions qui vont donner naissance aux cellules. C'est une façon d'apprendre des choses importantes pour nous, même si nous n'allons pas ni les uns ni les autres dans l'espace.
Oui, monsieur, pour une dernière question.
Oui, sur les planètes telluriques, hors de la Terre, vous dites qu'il n'y a peu ou plus de magnétisme, il n'y a pas de volcanisme. Qu'est-ce qui reste comme noyau fluide ou liquide et quelle est la température à l'intérieur de la planète?
J'aurais tendance à dire il ne reste rien. En fait, que ce soit sur la Lune, que ce soit sur Vénus, sur Mars ou sur Mercure, sur Vénus ou sur Mars, le champ magnétique est pratiquement insignifiant. Les magnétomètres que l'on a placés à bord des sondes n'ont pas décelé de champ magnétique contemporain. Par contre, dans le cas de la planète Mars, on a découvert récemment un champ magnétique fossile dans les roches. Vous savez que sur Terre, on a certaines roches qui ont la propriété de fossiliser le champ magnétique lorsqu'elles refroidissent. Ce sont les roches volcaniques. Et si vous allez vous promener, par exemple, dans le centre de la France avec une boussole, vous serez peut-être surpris de voir que vous perdez le nord si vous passez sur certaines laves, parce qu'à l'époque où ces laves ont refroidi, eh bien, elles ont fossilisé un champ magnétique qui n'était pas orienté comme celui qui existe à l'heure actuelle sur Terre. Eh bien, sur Mars, comme sur la Lune, on a découvert des champs magnétiques fossiles. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans le passé, eh bien, ces planètes avaient une activité interne. Ça, c'est normal, puisqu'elles avaient un noyau qui était actif, qui était chaud, qui avait peut-être des mouvements de rotation comme des mouvements capables d'engendrer un phénomène comme sur Terre, c'est un effet dynamo. Et ces champs magnétiques, eh bien, se sont éteints, ont disparu, lorsque l'activité interne de ces planètes a cessé, mais on en trouve des traces, donc, à l'état fossile. Mais aujourd'hui, que ce soit sur Mars, que ce soit sur Vénus ou sur la Lune, eh bien, il n'y a pas de champ magnétique. Ce n'est pas vrai pour Mercure, qui semble avoir un champ magnétique, parce que le noyau serait un noyau métallique assez volumineux. Et en ce qui concerne les planètes externes, essentiellement Jupiter ou Saturne, eh bien là on a des champs magnétiques très forts avec une magnétosphère extrêmement puissante, mais ça c'est une autre histoire.
Voilà, nous vous remercions.